Le festival Terre d'ailleurs qui a lieu cette année du 20 au 25 septembre à Figeac et de Casseville a reçu une nouvelle fois des aventurières, découvreurs, scientifiques pour le plus grand plaisir du public. Et cette année, grande nouveauté donc, puisqu'un navigateur était invité, Benjamin Ferré. J'ai pu discuter donc avec Benjamin Ferré à distance, puisque Benjamin était derrière son téléphone. Alors Benjamin, truculent et dynamique, qui marche et qui fait du vélo en pleine interview. Et dans notre studio figeacois, Mélusine Malander est venue également nous parler de sa vie, nous parler de son film « Les voies de la liberté ». Mélusine Malander, motarde dans l'âme, qui a traversé donc à moto nombre de pays.
T'as le karma muétine, un truc qui chante le matin avant les oiseaux.
Alors bien, merci Benjamin Ferré d'être avec nous aujourd'hui et de répondre à nos questions sur Antenne Doc. Alors vous êtes navigateur, mais pas que, non ?
Je suis navigateur et je fais d'autres choses à côté qui me nourrissent tout autant.
À qui vous nourrissent, bon, on va dire intellectuellement, passionnément, mais aussi financièrement, parce qu'il faut vivre hein, quand même. Hein.
Aussi financièrement, après, c'est la course au large. On a la chance de pouvoir, aujourd'hui, quand on est skipper de course au large, de pouvoir vivre de notre passion. Et c'est du coup des partenaires qu'on essaye d'emmener avec nous et qui financent une partie de ce rêve-là. Et après, moi, j'ai la particularité à côté de ça, d'avoir d'autres activités qui du coup aussi permettent de se nourrir tous les jours.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors dites-moi, donc vous avez répondu à l'invitation de Terre d'ailleurs, hein, donc vous venez donc à Decazeville présenter votre film à toute berzingue.
Alors avec il porte.
Eh ouais, et oui. Et puis vous connaissez Terre d'ailleurs, le festival?
Je ne connaissais pas, j'ai découvert justement avec... je ne connaissais pas très bien déjà le monde des... l'univers des festivals de films d'aventure. Mmh. Et du coup, je l'ai découvert à travers cette candidature et je suis ravi de venir découvrir ce festival.
Ouais, c'est un très beau festival que nous, on suit depuis déjà quelques années. Donc, vous venez présenter à toute berzingue. Alors, il porte sur quoi, toute berzingue?
À toute berzingue, c'est un film qui retrace... mon parcours sur une course au large en solitaire qui s'appelle la Mini Transat, qui est une course au large qui se prépare pendant 2 ans et qui est une course au large en solitaire sans assistance et sans communication sur les plus petits bateaux de course qui existent au monde, qui mesurent 6,50 m. Mm-hmm. Et en fait, il y a un réalisateur qui a fait le choix de me suivre au tout début de cette aventure sans savoir le dénouement final. Et voilà, et qui a suivi toute la préparation jusqu'au dénouement final qui était... d'atteindre l'objectif de traverser l'Atlantique et d'arriver jusqu'en Martinique avec ce petit bateau qui s'appelait Pile-Poil.
Pile-Poil, ah tiens, c'est amusant. Moi j'aime beaucoup, il y a une scène, alors j'ai pas vu à toute berzingue, j'ai pas vu le film j'avoue, j'ai pas vu le documentaire, mais bon j'ai vu le teaser, il y a un moment vous chantez. Hein.
Je chante, je danse, je crie, je pleure et oui, et c'est sûr que là, à l'instar de tous ces navigateurs qui participent à cette course-là, l'idée c'était aussi de montrer un petit peu ce qui se passe en mer et puis cette confrontation à soi-même et donc à tous les sentiments qu'on peut découvrir dans ces conditions-là, sans voir personne et sans parler à personne pendant 20 jours.
Ouais, c'est ça, 20 jours. Hein. Donc vous partez d'où? La Mini Transat, elle part d'où?
Elle part de La Rochelle, mm-hmm. Il y a une escale aux Canaries et ensuite arrivée en Martinique.
D'accord. Donc oui, donc pendant 20 jours, vous ne voyez personne.
Et c'est très particulier. C'est pour le coup, c'est voilà du vrai solitaire. Alors moi, je trouvais que c'était un luxe, c'était un peu un cadeau que je me faisais à 30 ans de m'accorder 30 jours, un peu moins de 30 jours en solitaire avec moi-même. Je trouvais que c'était un joli cadeau de se faire ça à cet âge-là. Mais c'est sûr que du coup, ça mène à plein de situations où forcément on est un peu plus susceptible et vulnérable.
Et oui, c'est ça, vous devez passer par différents états, hein, non, je suppose, c'est ça?
Y a, en fait, tout est très. Tout est décuplé, en fait. Donc, la joie est décuplée, la tristesse est décuplée, les emmerdes sont décuplées. Et l'objectif, c'est justement ce qu'on essaie de nous apprendre en course au large, c'est qu'on parle beaucoup de morale stable. Et c'est justement d'essayer de garder pendant tout le long de la course un espèce de morale stable qui est de ne pas aller trop haut ni trop bas et de garder une concentration et une confiance. Mais bon, forcément, on reste humain. Et en tout cas, pour ma part, j'avais du mal à garder ce moral stable dans toutes les circonstances.
Je suppose que participer à une mini-transat, ça se... Enfin, du moins, à cette mini-transat, ça se prépare. C'est un long travail de préparation.
Ouais, c'est un vrai travail de longue haleine. En fait, c'est ce qu'on n'identifie pas beaucoup dans la course au large et en particulier dans la mini-transat, c'est qu'on se focalise en fait beaucoup sur les courses et sur ce qui se passe en mer. Mais on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la vie de terrien, la préparation. C'est, la course au large, c'est ça ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est que la performance dépend de tellement de facteurs. Il y a de la préparation mentale, physique, de la gestion de la météo, de la nutrition, du sommeil, parce qu'on est en solitaire et il faut apprendre à gérer son sommeil, parce que quand on va dormir, le bateau il continue d'avancer. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer, parce que c'est quand même un univers qui est pas forcément facile à apprivoiser. Il faut être prêt à ça. Et c'était un peu le but aussi de ce documentaire, c'était de montrer ce qui se passait en mer, mais aussi de montrer ce qui se passait à terre, la solidarité qui peut se nouer entre les marins, parce qu'on a beau faire du solitaire, et ben quand on est sur le quai, on est tous très solidaires. Il y a un peu cet esprit des gens de mer, cette solidarité des gens de mer qui se crée. Et voilà, c'est 2 ans pour cette mini transat. En tout cas, c'est deux ans assez magiques de rencontres aussi et alliées à la préparation.
Alors, je reviens un petit peu sur le film à tout de Berzingue. Donc, c'est un film de Lou Kevin Roquet. J'espère que je l'ai bien prononcé.
Oui, absolument.
Hein, c'est ça. Il est réalisateur.
Ouais, c'est un jeune réalisateur qui en fait faisait à la base beaucoup de création de contenu avec des médias très courts. Et moi, avec qui je travaillais, avec qui j'ai travaillé dans une autre vie sur justement de la création de MOOC, de petites vidéos, de choses comme ça. Et c'est son premier long métrage. Et voilà, il a fait un travail. Bon, je ne suis pas très objectif sur la question, mais je trouve qu'il a fait un super boulot parce que ce n'est pas simple en fait, de réussir à recroqueviller en 42 minutes 2 ans de vie, de préparation, d'émotion. Et donc, Lou Kevin, c'est son premier long métrage. Et voilà, j'espère que ça lui donnera un pied à l'étrier pour en faire plein d'autres, et qui plus est dans le monde de l'aventure, de l'exploration et de la course au large.
Alors, c'est ça qui est intéressant, je pense, justement, dans votre film, dans Atout de Berzingue, c'est qu'on voit la préparation. On ne voit pas que la course en elle-même, que la mini-transat. On voit tout le travail, justement, qui est fait en amont. Je me trompe ou pas?
Non, absolument. En fait, l'idée, moi, ce qui m'intéressait de montrer, c'est que je trouvais qu'aujourd'hui, on s'intéressait toujours au résultat final, et on s'intéresse toujours aux gens une fois qu'ils ont fait une performance, une fois qu'ils ont accompli quelque chose. Et en fait, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est les petits pas qui mènent à ça. Et moi, c'était ça un peu ce qui m'intéressait dans le travail de Lou Kevin, c'est que lui, sa philosophie, c'était de s'intéresser à quelqu'un avant de connaître le dénouement final, et de voir ce qui se passait. Donc, le scénario, il ne l'avait pas écrit. Et le scénario, bah, c'est la vie qu'il écrivait, et lui, il filmait ça, et ça écrivait le scénario du film. Et c'était ça qui était intéressant, c'est que je trouve que quand on vise un objectif, qu'on a quelque chose d'un peu ancré en soi, y a plein de petits pas qui nous y emmènent, et parfois, on ne se rend pas vraiment compte qu'on se dirige vers le haut du sommet, et en fait, on est en train de le faire. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, c'était de montrer plutôt les petits pas que l'aboutissement en soi de la réalisation du projet.
Pour vous, avoir participé à cette mini-transat, c'est quoi? Un défi sportif, une aventure, un petit peu tout ça? Je ne sais pas.
À la base, c'était vraiment une aventure. C'était une aventure personnelle. J'avais la curiosité de voir ce que la solitude pouvait faire sur un homme pendant une vingtaine de jours. Et puis en fait, j'ai découvert plein d'autres choses au-delà de l'aventure. Je me suis découvert aussi un esprit de compétition que je ne soupçonnais pas. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une course. Et moi, j'ai pris goût à ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'être en course, ça amène à se dépasser et à découvrir des limites un peu insoupçonnées qu'on a au fond de soi. Et puis, il y avait cet aspect connexion avec la nature. C'est que c'est passer du temps en mer avec un horizon à 360 degrés, ben, ça fait vivre des émotions qui sont difficiles, je trouve, à retrouver dans la vie de terrien. Et c'était un peu ce savant cocktail que j'avais envie de découvrir et qui m'a galvanisé pendant toute cette aventure.
Mmh. Vous allez repartir ?
Et j'ai très envie de repartir. J'ai quelques projets de terrien, comme on dit, à terminer avant. Mais voilà, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas encore totalement officiel. Mais l'idée, c'est de s'engager. En fait, après la mini transat, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Il y a eu des rencontres qui se sont enchaînées et qui m'ont conduit à me lancer dans une nouvelle aventure de course large, qui est d'essayer de participer au Vendée Globe 2024.
Ah oui.
Et voilà. Et du coup, j'ai récupéré mon bateau qui est mis à l'eau depuis 15 jours et j'ai la chance d'être accompagné par le roi Jean, par Jean Lecam, qui après 5 Vendée Globe se met dans une optique aussi un peu de transmission et voilà, et qui essaye de m'emmener sur la ligne de départ du Vendée Globe 2024.
Mmh. Je vais poser une question. J'avoue que je suis pas. J'adore suivre les navigateurs, mais bon, je suis pas forcément. Je m'y connais pas forcément beaucoup. Puis nous, on est loin de la mer ici, vous voyez, dans le Lot. c'est peut-être une question bête que je vais poser, mais là, par exemple, pour une participation au Vendée Globe, ce n'est pas le même bateau que celui avec lequel vous avez fait la mini transat.
Alors non, pas du tout. Ah, c'est un bateau qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus difficile à manœuvrer. Et du coup, ça implique aussi une préparation beaucoup plus longue et beaucoup plus intense. Donc, c'est pour ça que je m'y prends aussi 4 ans à l'avance. Ouais. Mais là, ce bateau-là, c'est un bateau qui fait 60 pieds. Donc, il fait 18 mètres. Ah, il a un mât de 30 mètres. Et c'est des bateaux de course qui sont très impressionnants pour donner une référence un peu. C'est de la mini transat. Disons que c'est un peu du karting. Et puis que le Vendée Globe, c'est de la Formule 1. Et voilà, c'est un peu ce grand écart-là qui est fait.
Bon, c'est une belle image. Bon, ça me parle. Dites-moi, à toute berzingue, si les gens n'ont pas pu voir le film à De Casseville, est-ce qu'on peut le voir sur une plateforme de streaming ou en DVD ? Je sais pas, le DVD, c'est un peu dépassé peut-être, mais bon.
Ouais, alors pas de DVD, mais il est sur une plateforme qui s'appelle Wheel House. Qui est une plateforme de streaming. Et voilà, on peut acheter le film, louer le film pour 24 heures. Et voilà, il suffit de taper à toute berzingue Benjamin Ferré, Wheel House. Et je pense que c'est le premier lien sur le moteur de recherche apparaîtra.
D'accord. Allez, pour terminer, Benjamin, je vous pose quelques questions courtes. Souvent, je fais ça avec nos invités sur Antenne Doc. J'aime bien poser des questions courtes avec une réponse courte.
Allez-y.
Bah, pas facile. Hein. Bon, allez.
Essayez d'être concis alors.
Si je vous dis aventure.
Liberté.
Ouais. Votre livre du moment, enfin, s'il y en a.
Jean Mermoz de Joseph Kessel. Incroyable.
Ah, moi j'adore. Je l'ai lu il y a fort longtemps, mais oh là là. Enfin bon, de toute façon, j'aime beaucoup Kessel et j'aime beaucoup Mermoz. Donc bon. ça sera peut-être plus difficile. Votre bateau préféré.
Mon bateau préféré, c'est celui qui m'a amené le plus d'émotions, et donc c'est évidemment Pile Poil.
Pile Poil, bah ouais. Votre film préféré ?
Mon film préféré, c'est une bonne question. Je crois que c'est Good Morning England, l'histoire d'une radio pirate en Angleterre pendant les années. Les années où les radios étaient interdites et j'adore ce film pour la musique et l'esprit qui demeure.
D'accord. Votre plat préféré ?
La pizza.
C'est drôle, on me répond souvent ça.
C'est vrai. J'ai traversé l'Atlantique deux fois dans ma vie et à chaque fois, la première chose que je mangeais en arrivant, c'était une margarita toute simple.
Et alors, je ne sais pas si vous buvez de l'alcool, mais votre vin préféré ?
Vin blanc, petit sablis.
Ah oui, c'est bon goût, hein. Si je vous dis rêve.
Rêve, Vendée Globe, du coup, maintenant.
Bah ouais, là, oui, on ne pouvait pas répondre à autre chose. Hein. Ah oui, et celle-là, alors, bah là, la première chose que vous faites après une course en solitaire, quand vous posez vos pieds sur la terre ferme, manger une pizza.
Manger une pizza, non.
Non, je plaisante.
Non, c'est célébrer, c'est de serrer des gens dans ses bras, en fait. C'est plutôt le contact humain qu'on n'a pas eu pendant longtemps. Et en fait, ça manque un peu quand même.
Ouais. Le Vendée Globe, c'est combien de jours? Enfin, en moyenne, hein, évidemment, mais je ne me rappelle pas.
Probablement à peu près 3 mois. 3 mois autour de cette jolie planète bleue.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin.
Eh ben, merci infiniment.
Hein, d'avoir été loin de nous, mais quand même proche quand même. Hein.
Hâte de vous retrouver.
Bien. Eh bien, bonne journée à vous et bonne continuation surtout.
Hein. Merci beaucoup, vous aussi. Bonne journée à tout le monde.
Un truc court, mais qui laisse une grande trace. Pas le karma d'un gourou. Un truc puissant, universel, qui te dépasse. Si tu ne sais pas quoi faire de ton karma, puisque c'est lui le résultat de ce que tu feras, alors va. Si tu ne sais pas quoi faire de ton karma, puisque c'est lui le résultat de ce que tu feras, alors va. Si tu ne sais pas quoi faire de ton karma, puisque c'est lui le résultat de ce que tu feras.
Suivons notre voyage dans Terre d'ailleurs avec donc Mélusine Malander. Bonjour Mélusine.
Bonjour.
Alors je dis aventurière mais pas que parce que en fait je suis rendue sur votre site, hein, vous avez un très beau site qui est très bien fait. Et donc vous êtes exploratrice, féministe, humaniste. Bon, mais vous êtes quand même motarde aussi, non?
Oui,
avant
motarde
tout,
dans
avant
l'âme.
Tout motarde.
Je suis motarde.
Ouais, ça fait longtemps?
Ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans maintenant.
Ah ouais, vous êtes née sur une moto quoi?
Presque, hein? Presque. Mes parents sont motards,
ouais.
Les deux.
D'accord, donc ça aide quand même.
Ça aide, oui. Mais ma sœur et mon frère ne sont pas du tout motards. Donc ça ne fait pas non plus que les parents motards ne font pas que des enfants motards.
Ouais, la preuve, hein. Voilà. Alors, vous avez exploré de nombreux pays. On ne va peut-être pas tous les citer, parce que ça fait beaucoup, non?
Oui, maintenant, j'ai traversé une soixantaine de pays, alors
ça
serait trop long.
Alors, je ne sais pas, quel est le pays ou peut-être le voyage qui vous a le plus marqué?
Je crois que le voyage qui m'a le plus marqué, ça sera certainement le premier voyage que je fais avec ma 125, puisque c'est celui qui est un petit peu la genèse de ce que je fais maintenant. Et puis, il a été extrêmement fort dans ma construction de moi-même, où je pars de Paris, donc de chez moi, jusqu'à Vladivostok avec ma vieille 125. Et ça va être le premier voyage que je fais toute seule. Ça va durer 4 mois et je vais passer par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Mongolie. Je vais partir avec une moto très vieille qui a 110 000 bornes, donc que mon garagiste me dit elle va mourir si tu sors de la France. Et je vais passer mon temps à la réparer, la bichonner et lui dire on va aller vers ton pays d'origine, le Japon, parce que c'est une Honda. Et je vais oui, beaucoup, beaucoup passer de temps en fait, à la réparer et apprendre. Comment faire et surtout je vais rencontrer beaucoup de gens en cours de route.
Mais c'est ça qui est bien, non, finalement.
Ben, je crois que c'est ça de voyager, c'est de rencontrer l'autre, soi et l'autre.
Alors le film là que vous êtes venu présenter, donc Les Voies de la Liberté, est-ce que dans ce film on voit plusieurs de vos explorations, enfin explorations, oui, aventures, ou est-ce que ça porte vraiment sur un seul de vos voyages?
Elle porte sur 4 voyages, justement. Donc, ce premier voyage, qui est vraiment le début. Et puis ensuite, sur d'autres de mes voyages, puisque ça va être toute une... C'est une histoire personnelle, en fait. Du moment où je pars pour moi-même, c'est une aventure. Et puis, au fur et à mesure, je vais... autant j'étais auto-centrée, autant je vais m'ouvrir aux autres. Et en allant en Iran, je vais surtout me rendre compte que... Bah, on vit très différemment, que la vision qu'on a de ces pays-là est très différente de ce que moi je vais voir sur place. Et de là va naître l'idée en fait, de montrer ces endroits-là. Et justement, avant de partir en Iran, les gens me disaient toujours la liberté, il n'y en a pas là-bas, les femmes, elles portent un voile, c'est compliqué, pourquoi cautionner un tel gouvernement, pourquoi aller là-bas? Et quand je vais aller sur place, je vais rencontrer une population très chaleureuse. Je vais trouver que c'est injuste, en fait, l'image qu'on a de ce pays-là. Et je vais avoir envie de le montrer. Et du coup aussi, bah, justement, de questionner qu'est-ce que c'était la liberté. Parce que nous, on en a une idée, mais là-bas, elles ont... ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un avis ou qu'elles n'ont pas un ressenti de la liberté.
Mmh. Et le fait d'être partie avec une moto, est-ce que vous croyez que ça a pu vous ouvrir des portes, justement?
Oui, oui, complètement.
Parce qu'une femme, d'abord, sur une moto, bon, ici, on va dire, dans nos pays occidentaux, c'est pas surprenant, finalement.
Ouais, c'est pas surprenant, mais quand même.
Mais quand même, voilà, c'est ça. Alors que dans certains pays, je pense notamment à l'Iran, une femme à moto, c'est quand même exceptionnel, non?
Oui, c'est très, très... Bah, déjà, c'est interdit en Iran.
D'accord, ça calme.
voilà, les femmes n'ont pas le droit de passer le permis de conduire de moto en Iran.
Elles peuvent conduire des voitures ?
Elles peuvent conduire des voitures, mais je pense qu'il y a quelque chose avec l'entrejambe qui dérange. Mmh. Et donc, du coup, passer le permis en Iran est interdit. Donc, donc, techniquement, les femmes n'ont pas le droit de conduire de moto, sauf de la moto off-road. Donc, elles font de la motocross.
D'accord.
Parce qu'on on n'a pas besoin d'un permis. Mais ça, c'est l'Iran. C'est toujours... Il y a une loi, c'est beaucoup d'interdits, et les gens bifurquent, en fait, et trouvent un moyen, une solution pour contourner. Mais la moto est un moyen de rencontrer les autres. C'est un vrai vecteur de rencontre parce qu'on est... il y a aussi ce côté un peu voyageur. On arrive, on essaie. Moi, ma moto, si vous la voyez, il y a des bagages partout, elle est sale. Enfin, je viens de quelque part, je vais quelque part. Donc, ça amène une conversation. En plus, les gens sont assez surpris de souvent. Ils ne s'imaginent pas que c'est une femme qui conduit. Donc, quand j'enlève mon casque, ils sont là, wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ovni. Et ensuite, souvent, la première question, c'est, c'est donc, tu vas où? Tu viens d'où? Mais où est ton mari? Où sont les autres? Et là, je dois expliquer que ben non, il n'y a personne, il n'y a que moi. Et là, c'est mais pourquoi? Mais comment? T'as pas d'amis? Il y a quelque chose d'un peu suspect. Et en même temps, ils ne comprennent pas toujours.
Y a vraiment un pays où ça a été très, très difficile? Par exemple, pour rentrer dans le pays, alors ne serait-ce que des problèmes de papier, de visa, etc.
L'Iran, ce n'est pas une destination qui était quand même facile, mais quand même, c'est possible. La Birmanie, ça a été compliqué puisque j'ai dû avoir une escorte. J'ai dû avoir une voiture qui me suivait avec quelqu'un du gouvernement un guide. Pour me surveiller, qui prenait des photos tout le temps de où je voulais, de tout ce que je faisais. Après, il y a des pays où je n'ai pas pu aller, par exemple, c'est pareil, la Chine, il faut une escorte. On ne peut pas aller en Chine avec son propre véhicule. Il faut forcément un guide. Il faut forcément prévoir le trajet 3 mois à l'avance. Et payer ce guide, c'est à peu près 100 euros par jour pour aller en Chine avec son véhicule. Donc, ça, je ne le fais pas. Et dernièrement, j'ai décidé de. J'aimerais beaucoup aller en Arabie Saoudite. Et jusqu'à présent, c'était interdit. On pouvait pas, on pouvait aller que pour pèlerinage ou travail. Et il n'y avait pas de visa de tourisme. Donc certains pays, oui, par leur loi, amènent pas forcément à aller dans ces contrées-là. Mais il y a beaucoup d'autres endroits où on peut aller quand même, hein, et qui sont magnifiques à voir.
Eh oui.
Heureusement.
Et qu'est-ce qui vous a poussé finalement à devenir aventurière, exploratrice, le goût du voyage ou autre chose ou...
Il y a le goût du voyage, indéniablement. Je pense qu'il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire et parce qu'on aime les faire. Je pense que c'est la première des motivations. Ensuite, il y avait aussi la volonté. Je pense que quand on voyage, on voit des choses, on est témoin. Et je trouvais que ça important de témoigner de ces endroits-là. Parce que justement, je parlais de l'Iran, on a l'impression que tout est fermé, c'est très compliqué, mais les gens eux-mêmes, la porte est ouverte. Donc il fallait témoigner de ces endroits-là, parce que je trouvais ça injuste. Et puis aussi de témoigner sur le fait que c'est possible en tant que femme seule. Parce que souvent, il y a cette image de c'est dangereux, on ne doit pas le faire. On est dans un. Et plus ça va, les gens ont peur de l'autre. Et c'était un moyen de combattre cette peur. Je pense que quand on a moins peur de ces endroits, quand on les découvre, quand on commence à les aimer, on a moins d'a priori. Et ça, c'est un combat contre le racisme, contre la haine, contre. Voilà. Donc c'est ma petite pierre.
Justement, vous parlez beaucoup de liberté, hein, c'est quand même votre maître mot. En faisant tous ces voyages, vous avez trouvé votre liberté à vous, parce que finalement, la liberté, elle appartient à chacun, non, quelque part.
Oui, voilà, chacun a sa propre
Voilà,
vision,
à
son
sa
propre
oui, tout à
ressenti
fait.
de la liberté. Oui.
Vous avez trouvé votre liberté?
Je crois, oui, que j'ai trouvé ma liberté. Mais elle est sans cesse questionnée, tous les jours, en fait. C'est une question qui. La liberté d'hier n'est pas la même d'aujourd'hui. Elle est toujours, en fait, en relation. C'est quelque chose de très relatif à ce qui nous entoure. Donc, elle est toujours questionnée sur ce qu'est ma liberté. Et c'est toujours l'idée d'être qui on est, pour moi, en tout cas, et de rester qui je suis. J'essaye, en tout cas.
Alors, j'ai vu aussi que vous êtes donc une des rares femmes à avoir intégré. Alors, j'ai vu en 2015 la Société des explorateurs français. C'est vrai, ça? Vous êtes une des rares femmes à l'avoir intégrée. Il n'y en a pas beaucoup.
Non, on est peu.
Vous êtes peu nombreuses,
On
je
est peu
suppose. Hein, c'est
nombreuses dans
ça.
une société d'explorateurs. Mais elle a été fondée par des femmes. C'est pas une société qui a été fondée par des hommes. Elle a été aussi fondée par des femmes comme Ella Maillard. Donc c'est une société qui a toujours connu des femmes. Mais
D'accord.
nous sommes peu.
C'est un milieu un peu machiste?
Je dirais pas que c'est un milieu machiste, je dirais que la société est patriarcale et donc du coup il y a moins de, on est moins poussé les femmes à faire de l'exploration et donc du coup il y a moins d'exploratrices.
Ouais.
Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aventurières qui font parce que après il faut aussi voir la notion d'exploration. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un explorateur? Et chez nous, dans notre société, l'explorateur est quelqu'un qui va partir en voyage et qui va le ramener, en fait, pour aider le suivant. Et donc, on peut. Donc, des aventuriers, des aventurières, des gens qui vivent des aventures, et beaucoup de femmes françaises partent à l'aventure, mais ne ramènent pas forcément ou ne relatent pas forcément leur expérience. Alors, c'est pas. Et je ne critique pas du tout ça, mais il se trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes qu'il raconte. Et donc ça fait partie du métier d'explorateur, en fait. C'est de partager pour que les suivants aillent un petit peu plus loin.
D'accord.
Quel que soit le domaine, hein,
Oui, oui,
la
oui.
science,
Oui,
la
oui,
géographie. Enfin, on pense toujours qu'il faut planter un drapeau. Mais l'exploration, elle peut être intérieure, hein, elle peut être la
Oui.
microcellule, ça peut être l'étoile, ça peut être plein de choses.
Oui. Et justement, partir en exploration, partir en voyage. Alors pour vous, hein, je parle pour vous, hein, je ne parle pas pour la plupart des explorateurs, exploratrices, mais je parle vraiment pour vous. C'est quoi? C'est une aventure sportive, une aventure humaine, un peu tout ça?
Pour moi, elle est d'abord humaine. Dans mon cas, en tout cas, je ne fais pas un exploit sportif. Rouler en moto, je dirais presque tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, même j'encourage. C'est ce que j'espère, en fait, que les gens osent, parce que souvent, ils s'en empêchent. Donc, moi, pour moi, c'est plutôt d'essayer d'inspirer les gens. Dans le cadre de l'exploration et de ma propre exploration, elle est plutôt humaine, elle est personnelle. Autour de cette notion de liberté et de montrer en fait la pluralité des réponses et en même temps en fait le fait que c'est une question qui touche tout le monde, qu'elle touche tout le monde mais de partout dans le monde, que vous posez cette question sur la liberté au Rwanda, au Bangladesh, au Chili, on a des réponses qui sont très 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 similaires tout en étant différentes mais quel que soit l'endroit, le sentiment de liberté, tout le monde l'a vécu, l'a ressenti. J'ai été libre ou j'ai manqué de liberté et elle est importante à poser.
Et moi, il y a quelque chose ici qui m'interpelle. Je me dis, et après tout, chacun peut être explorateur et aller explorer, je sais pas moi, par exemple, allez, je vais aller passer un mois, je vais traverser l'Ardèche à pied, je dis n'importe quoi au hasard. Mais ça va être mon exploration finalement, à moi.
En fait, l'exploration, elle est toujours par rapport à soi. Enfin, elle est toujours relative à quelque chose, mais même un papou qui vient visiter l'Ariège est explorateur. Et surtout si, et bon, dans le sens de la société, ben, de l'SF dont je fais partie, ce serait quand il revient chez lui et qu'il raconte son voyage dans l'Ariège ou à Figeac, par exemple, il est explorateur et il raconte. L'exploration, elle est partout, mais enfin, je pense que l'humain est explorateur par nature. Vous voyez un enfant, il veut aller plus loin, il se lève, il se dresse sur ses pattes, il veut aller plus loin, toujours plus loin, la cuisine d'abord, ensuite le salon, le jardin. On est des explorateurs nés. C'est une manière de voir la vie, en fait. Et dès qu'on arrête, en fait, d'être curieux, et c'est la curiosité. Et il faut être curieux.
Alors justement, donc vous avez raconté votre voyage ou vos voyages, donc il y a dans le film Les Voies de la Liberté. Il y a un autre film aussi? Non?
Oui, il y en a
Oui.
plusieurs.
Il y en a plusieurs, hein?
Il y a 15 films
Ah
différents
oui!
et Les Voies de la Liberté, c'est celui qui raconte en fait tout. C'est un peu le making-of, mais pas que, quoi.
D'accord. Vous avez écrit un livre aussi, non?
Oui,
Ou
c'est du
plusieurs?
même titre, Les
Les
Voies de
Voies
la
de la
Liberté.
Liberté,
Voilà,
voilà.
c'est simple, hein.
C'est très simple, hein?
Voilà, moi, j'avais qu'une idée de
Non, mais...
titre et je l'ai fait.
Et donc, quand vous partez en voyage, vous vous filmez?
Oui,
Parce
c'est
que vous
ça.
partez seul, vous partez pas avec un caméraman.
Non, je m'autofilme
Vous autofilmez.
et je passe la caméra aux gens que je rencontre, je pose le pied, je fais des allers-retours. Oui, je fais tout toute seule.
Mais c'est bien, c'est très bien, hein.
Mais c'est ce que j'aime aussi, je trouve que. Et puis après, mais après, je filme pas. C'est pas la même. C'est pas comme Antoine de Maximi. Je suis pas équipée de caméra et je vais chez les gens et avec mes caméras. Ça demande quand même beaucoup de temps, souvent pour moi, de faire accepter la caméra, d'être sûre que c'est OK. Mais par contre, quand je me filme moi en train de rouler, oui, voilà, ça c'est.
Oui. Oui, parce que finalement, avec votre caméra, vous rentrez dans l'intimité des gens.
Oui.
Hein? Oui.
Et ça, pour moi, c'est ça ne se passe que si les gens veulent.
Oui, tout à fait. Vous avez une idée d'un prochain voyage? Alors, c'est compliqué en ce moment parce que déjà, bon, il y a le Covid, c'est un petit peu compliqué, hein? Voilà, vous avez une petite idée?
Mais je pense que j'ai envie de bah, en fait là j'ai envie de revenir en France. J'ai envie de voyager en France et j'ai envie de poser la question en France. J'ai beaucoup posé la question ailleurs et maintenant, je pense que c'est intéressant de la poser ici, justement dans ce contexte-là.
Oui,
Ça
tout à fait.
nous a bien. Je pense que les gens se sont posés beaucoup de questions justement
Oui, ils s'en posent
et
encore, hein,
s'en posent
d'ailleurs. Ils
encore,
s'en posent encore beaucoup. Ouais.
mais d'être enfermé chez soi, ça questionne beaucoup sur ce qu'on peut faire,
Tout à fait. Ouais, le mot liberté, là, prend tout son sens, hein.
C'est ça, c'est quoi la liberté puis, ouais, par rapport aux autres, par rapport à...
Alors, Mélusine, vous n'allez pas y couper. J'aime bien poser des questions courtes. Non, vous inquiétez pas, hein, c'est pas non plus. Hein. J'aime bien poser des petites questions courtes qui demandent des réponses courtes.
Ok.
Voilà. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Pas toujours. Alors, si je vous dis exploration.
Humain.
Là, ça n'a rien à voir. Votre plat préféré. J'aime bien savoir ce que vous mangez.
Les pâtes.
Oui. Enfin, c'est bien. En plus, ça, les pâtes, vous pouvez vous en cuisiner partout, finalement, non?
Oui.
On en trouve partout, des pâtes.
Presque partout. Mais des pâtes de riz ou des pâtes de... Ouais. Voilà. Mm-hmm. On trouve des pâtes partout. Ouais.
Alors ça, c'est une question, je pense, qui est plus difficile. Votre moto fétiche. J'ai pas dit préféré, j'ai dit fétiche.
Alors, c'est trop difficile. Je vais en rendre jalouse une.
Tant pis. Hein.
Non, je crois que c'est ma crossrunner.
Vous avez combien de motos?
3.
D'accord. Oh, bah, c'est pas tant que ça, finalement. Mm. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Je m'entends. Mais bon, ça aurait pu être... Voilà,
oui,
quoi.
J'aurais pu, mais quand même.
Ouais. Votre vin préféré? Alors, si vous buvez de l'alcool, hein, évidemment. Hein, si vous ne buvez pas d'alcool, on passe. Hein. Sinon, je vous demanderai votre eau préférée. Bon.
Je suis une fana de cola, alors c'est ça ma boisson préférée.
Ah, et bien alors votre cola préférée, tiens, ça c'est intéressant.
Ah bah c'est Coca-Cola, je suis désolée.
Ah ouais.
Mais je reste...
Vous restez Coca-Cola?
C'est...
Et, alors est-ce que c'est... tiens, c'est une bonne question d'ailleurs, ça me fait rebondir. On en trouve partout du Coca-Cola.
Oui.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. En Iran, il y en a?
Oui, il y en a en Iran, il y en a en Afghanistan, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a partout.
D'accord.
Là, ils sont partout.
Bon. Ben voilà, c'est le coca. Voilà.
Désolée.
C'est le cola.
Voilà,
mais vous n'avez pas à être désolée. Hein.
Ouais, bah si, il y a quand même... Il y a quelque chose d'un... Parce que c'est presque une drogue, hein, je vais l'avouer.
Ouais,
mais...
ouais.
Et puis ce n'est pas des gens très gentils. C'est quand même des gens qui prennent de l'eau à des gens qui devraient boire de l'eau, plutôt.
Oui, non, mais c'est sûr que... Bon.
Donc, j'en ai bien conscience, mais voilà. Il faut bien que j'ai un vice, c'est celui-là.
Voilà.
Je ne fume pas, je ne bois pas, mais...
Mais vous buvez du cola.
Du cola.
Voilà, vous voyez. Et voilà, en tête d'oc, on sait tout.
Voilà.
Allez, une autre. Ah oui, ça, celle-là, elle est pareille. Je pense qu'elle va être très difficile. Vous allez me... Votre pays préféré.
Ah,
ça, c'est très dur aussi. Hein.
C'est dur, ouais.
C'est dur.
Mais en fait, j'ai vraiment aimé le Népal et l'Iran, mais je dois bien admettre que le pays où je vis et le pays où je reviens toujours, c'est la France. Donc je pense que ça doit être la France.
D'accord. Bah oui.
De facto, ça doit être la... Voilà.
Oui, parce que vous revenez toujours.
Je reviens toujours et je n'ai pas trouvé d'autres pays où j'aimerais habiter. Mm-hmm. Donc voilà.
Et votre livre du moment, qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
Alors, je lis Agatha Christie en ce moment.
Ah!
Parce que... je viens d'accoucher et que je suis incapable de lire quelque chose de plus compliqué. Je veux pas.
Alors, ça me fait sourire parce que moi, c'est pareil. Moi, après mes deux accouchements, j'avoue... la nuit, pendant que voilà, j'arrivais pas à me rendormir parce qu'il a fallu se lever. Enfin bon, bref. Alors, je crois pas que je lisais Agatha Christie, mais dans ce style. Hein.
Voilà.
Je sais ce que je lisais, mais un truc simple pour pas me prendre la tête.
Exactement. Ouais. Ouais.
Mais c'est très bien Agatha Christie.
Ah mais c'est génial.
Moi, j'aime beaucoup. Bien. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors, j'invite les gens à aller voir votre site.
Merci. Hein,
donc, c'est melusinemalender.com, non
.fr. Enfin, melusinemalender, vous me trouvez.
Oui, de toute façon, voilà. Si on le tape sur moteur de recherche, il n'y a pas de souci, on vous trouve.
Oui.
Et le site est très bien fait. Et puis, donc, si vous voulez, si vous n'avez pas vu le film, etc., vous pouvez. Il y a une boutique sur votre site. On peut acheter le livre, on peut acheter des films. Voilà.
Ben, merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Mélusine.
Merci à vous. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé. À larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise.
Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.